France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Jacques-Yves Cousteau, Le Monde disparu. Épisode 5, Habiter le futur. La légende est la suivante. Après 1956 et sa palme d'or pour Le Monde du silence, Cousteau cherche une nouvelle aventure. Depuis quelques années, il a justement cette idée de faire construire un sous-marin très petit, capable de s'enfoncer dans l'infini des profondeurs, de s'introduire dans les crevasses et ainsi de rapporter des images inédites. Une soucoupe plongeante qui pourrait également servir à des missions océanographiques et de prospection au fond des océans. C'est dans le carré de la Calypso qu'il aurait déterminé la forme de ce bathyscaphe en posant deux assiettes à soupe l'une contre l'autre. Une forme bombée, comme un gros crapaud jaune éclairant de ses deux yeux le noir de l'océan. Plus tard, c'est en observant un poulpe cracher son encre qu'il aurait eu l'idée d'un système de propulsion. Cette belle histoire a peut-être été un peu simplifiée pour les besoins de la légende, mais la réussite de Cousteau avec sa soucoupe plongeante est, elle, bien réelle.
C'est un jour de fête particulier pour tout l'équipage. On va baptiser la soucoupe plongeante. Elle a été fabriquée à Marseille, n'est-ce pas, commandant ?
Oui, la soucoupe plongeante a été fabriquée à Marseille par mes amis de l'Office français de recherche sous-marine pour, combler la lacune qui existait entre les scaphandriers autonomes et les bathyscaphes. C'est donc un engin de moyenne profondeur, très maniable, et qu'on peut mettre à l'eau n'importe où de par le monde depuis la Calypso.
Quel est son nom ?
Ah, eh bien, pour le moment, elle n'est pas encore baptisée, mais je pense qu'on lui donnera le nom de sa marraine, qui est la femme de l'ingénieur qui s'est consacré le plus à sa construction, l'ingénieur Mollard, et sa femme s'appelle Denise, alors je pense qu'elle s'appellera Denise.
Et quelle sera l'utilisation de Denise ?
Denise va commencer sa carrière en étant utilisée dans les îles de l'Atlantique et sur les côtes atlantiques, en particulier aux Bermudes, à Porto Rico et aux îles du Cap-Vert au cours de la croisière que la Calypso va entreprendre dès ce soir.
Merci infiniment, commandant. Ici Violette Bonfils qui vous a parlé de Marseille.
Jacques-Yves Cousteau, Le Monde disparu. Une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer.
Christophe Camus, vous êtes sociologue et enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Bretagne à Rennes. Vous travaillez notamment sur l'architecture sous-marine et les visions du futur. Alors, on entend en fond sonore la chanson Yellow Submarine des Beatles, qui fait référence à l'un des bathyscaphes de Cousteau, la Norep 1. Vous le saviez ?
Effectivement, cette chanson et ce dessin animé, en fait, avec un sous-marin jaune, hein, jaune comme la soucoupe plongeante de Cousteau, jaune comme d'ailleurs finalement tout l'équipement que Cousteau va produire, hein, des bouteilles, des premières bouteilles de plongée jusqu'à aux maisons sous-marines dont on reparlera peut-être. Et cette couleur, voilà, va devenir un peu l'emblème aussi de Cousteau. Alors vous. Vous parliez de bathyscaphe aussi, de référence au bathyscaphe, c'est vraiment lié à cette idée d'aller voir naturellement, en fait, au fond de l'eau, hein, ce qui est le cas avec, déjà dès l'invention du scaphandre, en fait, qui est un engin qui permet de nager comme on nagerait à la surface, mais nager sous la surface et d'aller comme ça le plus loin pour voir les choses de plus près.
Donc ne pas déranger le milieu, s'y fondre comme si on était un poisson, en l'occurrence,
voilà.
Avec les bouteilles, ou presque un poisson, un gros poisson, disons, avec la soucoupe plongeante.
Oui, il y a une formule comme ça de Cousteau dans son livre Le Monde du silence, en fait, qui rencontre un peu de ses premières années d'exploration, qu'il a plutôt diffusé sous forme de film, où il décrit en fait l'utilisation de son premier scaphandre autonome comme un homme devenu poisson. Et effectivement, la soucoupe plongeante, c'est un engin, comme vous le rappeliez, qui est, on pourrait dire, biomorphique, ou on dirait biomimétique aujourd'hui, même si plutôt la forme qu'il cherchait, mais aussi la propulsion aussi, qui est du coup biomimétique.
Donc c'est une vision futuriste qui est une vision presque transhumaniste, puisqu'il y a une fusion entre la technologie et l'être humain.
Je ne sais pas si le terme transhumanisme renvoie à plus à une
C'est l'homme situation. Augmenté quand même,
oui, c'est l'homme
que
augmenté,
l'homme peut
tout à fait.
Aller au fond des mers.
C'est l'homme augmenté, c'est l'idée de fusion qui va aller beaucoup plus loin avec ce... Il va défendre très vite l'idée d'un homo aquaticus, un homme justement augmenté, transformé par la technologie ou par des transformations quasiment chirurgicales, physiologiques, etc. Donc oui, il y a cette idée-là. Alors... Si je reviens à Yellow Submarine et du coup à l'Angleterre, les Beatles et l'Angleterre, je dirais aussi, moi, ça me fait penser aussi moi, je m'intéresse à la dimension architecturale aussi de ces histoires, à la manière aussi dont le collectif anglais Archigram, collectif d'architectes des années 60, qui est un peu de l'architecture pop, on pourrait dire, dans un premier temps, s'intéresse en fait aussi à ce sous-marin jaune, finalement, assez sous-marins jaunes et dont celui de Cousteau et vont notamment publier comme ça des planches un peu d'images, d'idées, etc., de recherches visuelles, reprenant la soucoupe plongeante.
Et qu'est-ce qui les intéresse, les architectes qui sont des architectes de recherche hein, qui ne se contentent pas de faire des bâtiments, qu'est-ce qui les intéresse dans la soucoupe plongeante de Cousteau?
Je pense que ce qui les intéresse, c'est ce projet d'aller vers d'autres espaces, de coloniser, d'habiter d'autres espaces. Et il développe notamment des projets de cité, Underwater City, hein, qui est d'un des concepteurs de ce groupe, qui fait pas référence à la soucoupe plongeante dans sa forme, mais qui par contre incite en fait ces architectes à comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'on a déjà comme matériel, qu'est-ce qu'on en a comme équipement.
Une parenthèse à ce moment de notre exploration. On peut difficilement comprendre Cousteau si on nommait le fait qu'il était un entrepreneur. Pas seulement un cinéaste, ni seulement un marin, ni seulement un scientifique, ingénieur ou écologiste, il était tout cela à la fois. Aussi s'est-il animé une équipe et s'entouré de fidèles qui possèdent des compétences qu'il n'a pas. C'est ainsi qu'il parvient à innover dans des domaines variés. Il co-invente le scaphandre autonome avec Émile Gagnon. Il co-réalise le monde du silence avec Louis Malle. Et au moment de développer son petit sous-marin d'exploration, il fait aussi appel à l'ingénieur Jean Mollard, qui travaille sans relâche sur ce projet durant 3 ans. Cet état d'esprit va de pair avec une vision du monde où la créativité et l'implication de tous dans le travail doivent être très grandes. Pour cette raison, Cousteau ne s'apitoie pas sur le sort de ceux qui ne prennent pas leur destin en main, comme on l'entend dans cette archive de 1969 avec Jacques Chancel.
Vous savez ce qu'il y a de terrible? C'est les carrières. Trop bien tracées. Quelqu'un qui s'engage dans une carrière, par exemple, il est certain d'être cuit à 40 ans, ça c'est sûr. Mais...
Pessimiste.
Ah non, je suis persuadé que c'est vrai. Par contre, si cette carrière est suffisamment heurtée, variée, c'est pour ça que les musiciens, les artistes n'ont pas cette limitation. Ils continuent à être productifs. Regardez Picasso, c'est incroyable. Enfin, ça continue, ça foisonne de plus en plus, c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que eux ont toujours du nouveau, rencontrent toujours, n'ont pas cette espèce d'ornière, de tradition, de routine qu'on a même dans les sociétés privées. Quelqu'un qui fait son métier depuis plusieurs années, eh ben, il faut le remplacer, c'est certain.
Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui vous écoutent en ce moment, qui sont terriblement attristés, car c'est une question qui se pose en ce moment. Les hommes de plus de 40 ans, ou même de plus de 50,
ont du mal à
s'imposer. Oui. Je connais des polytechniciens qui, parce qu'ils ont 50 ans, ne sont pas reclassés.
Je sais bien.
J'en connais 13.
Je sais bien.
Vous trouvez cela parfaitement normal?
Mais non, je trouve ça très cruel pour eux. Mais je pense que c'est quand même justifié à l'échelon de l'entreprise. C'est justifié à l'échelon même de l'humanité, si vous voulez. Parlons même pas d'un pays. Et ce qui serait terrible, c'est de leur faire la charité d'un emploi, par exemple.
Un entrepreneur, sachant se réinventer sans cesse, c'est ainsi que Cousteau se considère lui-même. En revanche, il ne se voit pas comme un industriel. Ainsi, quand les soviétiques demandent à Jean Mollard s'il pourrait acquérir une soucoupe plongeante, Cousteau intervient immédiatement Il va voir Mollard et lui dit « Vous ne voulez tout de même pas qu'on fabrique une usine ?» Christophe Camus, Cousteau, c'est donc aussi cet homme qui aime l'agilité, l'entrepreneuriat, celui qui dit « Quand on veut, on peut », mais qui le dit avec une certaine dureté, comme on l'a entendu dans l'archive précédente.
C'est aussi un entrepreneur dans le sens où il va, il a une capacité à la fois de mobiliser un équipage, des gens passionnés qui n'hésitent pas à s'embarquer avec lui dans des aventures qui sont pas forcément, qui leur permettent pas d'avoir des carrières très stables au niveau économique et autres, mais qui sont des passionnés, et aussi de mobiliser des décideurs ou des industriels, des politiques également pour financer ses missions, ses recherches. Il part dans ses premières missions avec la Calypso, qui se fait offrir d'ailleurs aussi par un mécène milliardaire. Il embarque à la fois des chercheurs, son équipage bien sûr, avec des motifs qui sont de la prospection pétrolière par exemple, où on s'aperçoit quand on lit un peu les journaux des différents participants, de Frédéric Dumas aussi par exemple, que derrière, tout est mélangé, en fait. Cette entreprise, en fait, a des buts multiples et différents, et dont on sent bien que c'est effectivement plus de l'ordre de l'aventure, de la meilleure connaissance de la mer et de cet environnement qui l'intéresse, quoi.
Rien ne peut satisfaire Cousteau, et l'idée de se reposer sur ses lauriers l'insupporte. Ainsi, après avoir inventé la plongée en bouteille, après avoir fabriqué un mini sous-marin, voilà qu'il veut passer au niveau supérieur et construire rien moins qu'une maison sous la mer. Cela tombe bien, son fils Jean-Michel est architecte et s'intéresse à la conception des villages sous l'eau, tout comme d'ailleurs le fera plus tard son ami Jacques Rougerie, architecte lui aussi. Il faut dire que l'idée est dans l'air, si l'on peut dire. C'est l'époque où l'on invite les journalistes à prendre des cafés par 5 mètres de fond.
Jacques Rougerie, merci de m'avoir invité pour le petit déjeuner dans votre aquabulle. On est par presque 5 mètres de fond dans la baie d'Ajaccio. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de notre petit déjeuner?
Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Ben écoute, attendez Jacques, je vais d'abord vous offrir un petit café parce que moi je n'ai pas encore pris mon café.
Oui.
Donc vous allez me goûter ce petit café de Mérien, fait à base de produits de Mérien. Imaginez que vous êtes dans un œuf, hein, transparent, sous l'eau. Voilà ce que représente Aquabulle. Alors Aquabulle est la première pierre d'un village pour enfants sous la mer, à moins 3 mètres, moins 5 mètres de profondeur, puisqu'il n'est pas question de faire plonger des enfants de 7 à 10 ans plus profond que 3 à 4 mètres. Hein.
À quoi cette archive vous fait-elle penser, Christophe Camus ?
À Jacques Rougerie comme architecte, le seul architecte en fait qui a vraiment repris le flambeau de Cousteau.
Vous pouvez nous dire en deux mots qui était Jacques Rougerie ?
C'est un architecte qui, très jeune, en Afrique, a découvert la mer et s'est passionné pour cela, et qui fait des études aux Beaux-Arts à Paris, à l'école des Beaux-Arts à Paris à l'époque, des études d'architecture avec toute une génération d'architectes un peu visionnaires, justement, qui ont des grands projets d'équipements.
Mais c'est surtout quelqu'un qui a fabriqué des aquariums musées, par exemple, et qui a construit sous la mer. C'est finalement un des seuls architectes à avoir réellement cru ou pensé qu'on pouvait habiter sous la mer.
Il n'était pas seul, en fait, à en rêver, à l'imaginer, à le dessiner. Il dessinait fabuleusement, justement, les ambiances de villages sous-marins inspirés par Cousteau. Il est allé voir Cousteau aussi. Mais effectivement, c'est le seul qui parvient à faire fabriquer, en fait, ces projets. Donc là, Aquabulle, effectivement, c'est des petits modules tout petits. Cet extrait montre une mise en scène aussi où, pour dire qu'on habite sous la mer, on boit un café là, ou on mange, ou on dort, et c'est un peu la scénarisation de ça qui est le sens aussi qu'on n'est pas simplement dans une petite exploration.
Est-ce que c'était une époque, quand Cousteau s'intéresse à ces villages sous la mer, est-ce que c'est une époque où on pense sérieusement qu'on va habiter davantage sous la mer ?
Oui, je pense qu'à l'époque, quand on lit la prospective, même le discours prospectif des futurologues de l'époque, on a cette idée-là qu'on va conquérir de nouveaux espaces, qu'on va habiter des milieux extrêmes, dont la mer. Au moment où Cousteau envisage ça, on est véritablement dans un discours de quasiment d'urbanisation de la mer. Il y a une exposition qui a lieu en 64 à New York, où il y a un pavillon de la General Motors, où il y a comme ça une maquette qui est assez extraordinaire, où on traverse différents espaces et dont, pour dire, l'homme va habiter tous ces espaces. Et il y a un passage sous l'eau où on voit des espèces de grandes cités sous la mer, de petits engins sous-marins qui ressemblent un peu, voilà, qui ressemblent un peu à la soucoupe plongeante et tout ça.
Exploiter et étudier le plateau continental sous-marin en s'y installant pour y vivre, tel est le projet de Cousteau, intitulé « Précontinent ». Il s'agit presque de la première expérience d'habitat sous-marin au monde et elle a lieu en septembre 1962. Albert Falco et Claude Wesley passent une semaine dans un tube de 5 mètres de long sur 2,5 mètres de diamètre par 10 mètres de fond, une sorte de tonneau, dénommé d'ailleurs « Diogène ». Christophe Camus, comment se passe cette première expérience de vie sous-marine ?
Elle se passe un peu comme les celles qui suivront, c'est-à-dire qu'elle est déjà très médiatisée. En fait, il y a un film qui est tourné, même si la trace en est perdue. On perd des archives, justement, sonores ou audiovisuelles. Ça se déroule, en fait, avec deux plongeurs de la Calypso qui deviennent océanautes. Cousteau insiste beaucoup, d'ailleurs utilise le terme « maison sous la mer » à propos de ce petit habitat qui est assez rudimentaire, en fait, qui est une citerne reconvertie, préparé assez vite fait, etc. S'est installé pas très loin de ses bases arrière, hein, puisqu'on est en face de Marseille. C'est à 10 mètres de profondeur, donc sans risque. À l'époque, on considère que 10 mètres de profondeur, on peut rester indéfiniment et sans problème particulier. On respire de l'air comprimé, il n'y a pas de... Et il y a tout un début de scénarisation, en fait, de l'habiter. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit des photos, maintenant, le film a disparu, il y a des petits morceaux qui restent. On voit les deux océanautes, ça ressemble plus à du camping, qui sont sur des lits de camp. Il y a la télé, il y a un tableau d'André Laban qui est peintre, qui peint sous l'eau et qui a accroché un de ses tableaux. Il y a des visites, en fait. Il y a des Cousteau qui vient dîner ce soir, quoi, un peu, quelque part, avec sa bouteille de champagne les bulles ne se forment pas parce qu'à cette profondeur-là, la pression empêche cela. Donc, pour dire aussi qu'on est dans quelque chose qui va être sublimé dans la deuxième expérience, mais qui est une vie ordinaire, simple, tranquille, sous la mer. Il y a un petit salon de jardin aussi qui a été un vrai salon de jardin en fer forgé, comme ça se faisait à l'époque, qui est posé au fond de l'eau pour faire des tests psychologiques et qui du coup donne l'impression d'avoir un jardin sous la mer. Et c'est décrit comme ça aussi, comme les prairies de Posidonie autour dans lesquelles on se promène. Et il y a tout un récit après on aurait voulu être tranquille et rester là tout le temps, quoi, quelque part.
Les conditions de cette semaine en immersion sont très éprouvantes pour Falco et Wesley, qui vivent dans l'humidité et le froid constant, qui plus est, sans cesse sollicités par ceux qui sont chargés de veiller sur eux depuis la terre ferme. Aussi, pour le village sous la mer suivant, Précontinent 2, Cousteau a-t-il prévu davantage de confort ?
Le commandant Jacques-Yves Cousteau vous donne des nouvelles du village sous la mer, journal de bord de la Calypso en mer Rouge.
Dans le living room, la grande pièce de la maison située à 10 mètres dans le précontinent numéro 2, nous avons décrit le tableau électrique. Il y a un coin de cette grande pièce qui est vide. C'est le coin qui est réservé aux perroquets. Il n'est pas encore descendu. Je pense que dans quelques jours, nous le descendrons ainsi que sa cage. Mais il y a un coin vide qui lui est destiné. Pourquoi un perroquet ? Eh bien, au fond, ça n'est pas extrêmement utile, mais tout de même, un oiseau est manifestement plus sensible à la détérioration de qualité de l'atmosphère qui pourrait arriver et par conséquent montrerait des signes de détresse bien plus tôt que les hommes. Donc ce serait un indicateur non négligeable, bien que nous ayons des indicateurs plus précis et plus modernes.
Christophe Camus, qu'est-ce que vous entendez dans cette archive ?
Toute la magie aussi de la manière d'enchanter cette expérience par Cousteau. C'est presque anecdotique, cette présence du perroquet, même si ça a un sens, effectivement, de le prendre comme capteur de saturation au gaz carbonique. J'entends aussi, finalement, la dramatisation aussi sous-jacente de cette expérience. On est à la même profondeur que la première expérience, donc sans réel danger, même si, bien sûr, on pourrait s'intoxiquer avec le gaz carbonique dégagé, mais voilà, je pense que c'est mieux maîtrisé. Et ce perroquet, il va servir aussi à toute une imagerie, en fait, de l'océanaute à sa fenêtre. Là, contrairement à la première expérience, on a des ouvertures extrêmement importantes, des fenêtres qui permettent de voir le paysage sous-marin. Et il y aura tout un jeu aussi à travers les images vues de l'intérieur, tantôt vues de l'extérieur, où on aperçoit l'océanaute avec, je crois que c'est Claude Wesley, avec le perroquet à la main devant la vitre, vue de l'extérieur. Et inversement, de l'intérieur, on peut voir la même chose avec des poissons qui passent ou des plongeurs qui passent sous les fenêtres. Donc il y a toute cette installation de cette idée de maison, là, véritablement, qui est plus spacieuse.
Donc la maison du futur, parce que c'est ça, finalement, qu'on essaie de nous montrer, c'est la maison dans l'avenir. Et là, on est quasiment dans la science-fiction, non ?
Oui, alors maison du futur, faut dire quelque chose aussi de la forme, en fait, de cette maison biomorphique également. On l'appelle la maison étoile de mer, hein, parce qu'elle a plusieurs, en fait, c'est plusieurs cylindres assemblés avec une espèce de noyau central. On se fait bronzer sous une lampe à UV, le coiffeur passe de temps en temps, on passe l'aspirateur, encore une fois, on mange, on est attablé.
C'est le confort moderne.
C'est le confort moderne.
Les années 60-70 aussi.
Voilà, exactement, oui, avec de la moquette épaisse.
Mais pourquoi, au fond, Cousteau imagine qu'il faudrait vivre sous la mer ? Quel est son intérêt à ça ? Et pourquoi pense-t-il que c'est vers cela qu'il devrait finalement se développer son activité ?
Il le pense, alors comme je disais auparavant, il le pense pas tout seul, dans un grand projet d'utilisation, de colonisation de l'ensemble de l'espace, de la Terre, qui est quand même aux trois quarts couverte de mer.
Pas tellement l'idée de protéger la nature, alors, puisqu'il s'agit de coloniser jusqu'au fond des mers. C'est un peu antinomique avec ce qu'il dit par ailleurs, non ?
C'est à ce moment-là, c'est lié à l'idée de finalement des limitations aussi de ressources qu'on a sur la terre ferme. Et il y a l'idée d'aller exploiter des nouvelles ressources, d'aller trouver de nouvelles ressources. Alors, il y a tout un discours, alors c'est un peu plus lointain par rapport à cela, mais sur les nodules polymétalliques, sur le pétrole, sur des ressources comme ça qui permettraient de l'aquaculture et
donc,
de la ressource.
Fond, vivre sous la mer pour pouvoir soit aller chercher du pétrole, ouais, soit aller chercher d'autres types de matières premières, ou même donc faire de l'agriculture sous-marine, c'est ça ?
Voilà.
En 1964, un peu moins de 10 ans après sa Palme d'Or pour Le Monde du Silence, Cousteau reprend et adapte ce titre qui lui avait tant porté chance et porte à l'écran Le Monde sans Soleil sur ses expérimentations de vie sous-marine. Le film est bien reçu par la critique du Masque et la Plume.
Si nous parlons du Monde sans Soleil maintenant, c'est un film du commandant Cousteau qui nous avait déjà donné Le Monde du Silence. Voici maintenant Le Monde sans Soleil. Moi, j'étais absolument ébloui. J'adore ça, mais enfin, je sais pas. Georges Sadoul.
Figurez-vous que, en ce qui concerne le nouveau film du commandant Cousteau, Le Monde sans Soleil, j'y suis un peu allé comme un chien qu'on fouette. Non pas que je n'ai pas admiré les films précédents de Cousteau, c'est-à-dire Le Monde du Silence et les courts-métrages qui l'ont précédé, qui sont des choses extraordinaires, admirables, enfin magnifiques, n'est-ce pas ? Mais je me suis dit qu'après avoir fait précisément tout ça, eh bien, il n'inventerait rien d'autre. Eh bien, je m'étais complètement trompé. Et vraiment, c'est tout à fait extraordinaire. Nous ne sommes d'ailleurs pas dans notre monde. Nous sommes autant des premiers hommes dans la Lune, ayant déjà débarqué sur la Lune, et en pleine science-fiction. J'y suis allé un jeudi après-midi, la salle était remplie d'enfants, et j'y ai retrouvé l'émerveillement qui fut le mien en découvrant autrefois le monde de Jules Verne dans les gravures anciennes, car très curieusement, ça ressemble à la fois à des bandes dessinées en science-fiction d'aujourd'hui, mais aussi aux bonnes vieilles illustrations de Jules Verne il y a 100 ans ou à peu près.
Je vois bien le rapport à Jules Verne, c'est évident, mais et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ça fonctionne différemment. C'est-à-dire, quand on voit les gravures de Jules Verne, on est encore sur un mode de la promenade dans les forêts sous-marines, comme on le ferait sur Terre, c'est-à-dire en position verticale, hein, comme si on marchait. Alors que, justement, le film joue avec les trois dimensions.
Avec la pesanteur.
Avec la pesanteur, avec les déplacements de la soucoupe qui survolent, avec les plongeurs qui passent la tête sous l'eau le matin pour aller voir les poissons s'ils passent devant. Enfin voilà, il y a une logique un peu différente.
Ça fait penser aussi à 2001, Odyssée de l'espace, et à d'autres films un petit peu de cette époque-là qui visuellement ont des codes en commun.
Oui, tout à fait. Il y a le début du film, notamment, est un début que j'ai tendance à voir comme un discours de conquête, en fait. Ça fait lien avec les premières archives qu'on a pu écouter sur la soucoupe plongeante, puisque le début du film, c'est la soucoupe plongeante qu'on voit avec des espèces de traînées de fluorésine qui colore l'eau aussi en jaune vert et qui à un moment remonte vers la station profonde, puis remonte encore plus haut sur le plateau où est installé le village qui est à 10 mètres de profondeur et qui donne cette impression de vaisseau spatial en fait qui arriverait dans une base posée sur une planète aquatique.
On se souvient que Cousteau avait voulu devenir pilote d'avion mais qu'un accident de voiture l'avait empêché de réaliser cette vocation. Et quand on lui parle de l'espace, on sent aussi son regard s'illuminer, rien qu'au son de sa voix.
On a beaucoup parlé cet an dernier de l'arrivée des hommes sur la Lune.
Oui.
Est-ce que de la même manière, on peut parler de grandes possibilités au fond de la mer ?
Ça, je crois que c'est assez facile de dire que les possibilités sous la mer sont quand même d'une application pratique un peu plus grande que ce qui se passe sur la Lune. Maintenant, de là à dire que... Moi, je suis un fanatique de l'exploration spatiale, si vous voulez. Il ne faut pas m'interpréter.
Si vous aviez à choisir, par exemple.
Alors, je préférerais aller sur la Lune, ça, il n'y a pas de doute.
Vous êtes un peu jaloux d'Armstrong.
Ah hein. oui, ça, sans hésiter. Ça. Je ne l'ai jamais caché. Si j'avais 20 ans de moins, je suis sûr que j'aurais fait des pieds et des mains pour faire partie d'une équipe spatiale, ça, c'est sûr. Mais... c'est parce que ça frappe plus mon imagination et parce que c'est encore plus près du rêve que l'exploration sous-marine.
C'est parce que vous ne l'avez pas fait aussi.
Et puis peut-être parce que je ne l'ai pas fait.
Christophe Camus sur cette archive et sur l'idée que l'espace, c'est la dernière frontière pour Jacques-Yves Cousteau.
C'est une question plus compliquée. Elle est présente dès le départ, comme vous l'avez rappelé, avec son... Il aurait pu être aviateur, il aurait pu piloter des avions et pourquoi pas, continuer très américain était-il. Donc il aurait pu aussi finir à la NASA, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que tout le discours qui entoure en fait, ces projets de colonisation pacifique, pour reprendre ces termes, du plateau continental, sont des discours aussi qui se positionnent en concurrence et en complémentarité avec cette conquête de l'espace qui a déjà commencé. Hein. Effectivement, Spoutnik, c'est 57. Donc, il y a toujours une revendication, en fait, de finalement d'une colonisation qui est plus facile, qui est plus proche, qui demande moins de moyens.
Donc,
aussi.
Pourquoi aller sur la Lune alors qu'on pourrait coloniser oui, le fond des mers, c'est ça que nous dit Cousteau.
C'est pas l'un ou l'autre, mais c'est. Je pense qu'il est convaincu aussi par la conquête de la Lune, mais Il rappelle que il y a aussi cet espace-là à côté qu'on pourrait coloniser, qu'on connaît très peu, qui, comme il le dit dans l'archive, il y a aussi des ressources aussi immédiatement exploitables. On revient à ça.
Et d'ailleurs, il imagine que on peut utiliser des techniques de la NASA, des techniques de la conquête spatiale, pour aller sous les mers.
Oui. Et inversement,
parce que ce sont deux milieux hostiles et que au fond, on retrouve des problématiques qui sont similaires dans les océans et dans l'espace.
Oui, l'idée d'espace analogue en fait va être développée par la NASA, qui va aussi, alors un peu plus tard, mais ça va venir quand même assez vite, avoir ses propres maisons sous la mer pour entraîner ses astronautes.
Cousteau était-il du genre de ceux qui abandonneraient volontiers la Terre en cas de besoin pour aller se réfugier dans l'espace? Une anecdote qu'il a racontée lui-même nous donne un indice sur ce point. Il racontait en effet qu'un jour, en Crète, au cours d'une mission archéologique, il était parti flâner dans la campagne afin d'observer les fleurs. Et c'est au cours de cette flânerie qu'il avait découvert une grotte contenant un temple néolithique. Et le commandant de conclure, « C'est donc juste en regardant les fleurs que vous pourriez faire une découverte. » Les spécialistes regardent le progrès et la science et ne voient rien. Vous devez rester profondément attaché à la Terre si vous voulez comprendre ce qu'il se passe.
Il y avait donc une nuance aussi dans la volonté d'exploration maximale de Cousteau, qui savait qu'on pouvait aussi, dans les petites choses, faire de grandes découvertes.
Cette déclaration, en fait, date aussi d'après, hein, ces maisons sous la mer, de l'époque où Cousteau est devenu un apôtre de une forme d'écologie qui est discutée aujourd'hui, mais qui était quand même revendiquée de cette manière-là. Et ce petit échange, en fait, il se fait dans le cadre aussi d'une discussion avec des gens de la NASA et avec un des directeurs de la NASA, le numéro 2 de la NASA. Et quand il raconte ça, Cousteau, effectivement, s'est rappelé en fait que la référence, c'est la Terre, en fait, dans ce qui l'intéresse dans la conquête spatiale. Il y a aussi toute une dimension de critique de la science hors sol, de la science qui s'attache pas aux choses, qui va pas voir. C'est toujours cette idée aussi que l'humain, la présence humaine est nécessaire sous l'eau, comme elle est nécessaire dans l'espace, mais qu'il faut revenir sur la Terre. Et il parle déjà d'ailleurs de générations futures à ce moment-là, à ce propos, en disant qu'elles sont attachées à la Terre.
Davantage que ses expériences de vie sous la mer, ce qui reste de Cousteau aujourd'hui, ce sont ses documentaires animaliers. On en parle dans l'épisode qui suit.